Connaissez Nessie, le célèbre monstre écossais, mais connaissez-vous les autres monstres qui vivent dans des lacs? Il y en aurait plus de 200 dans le monde, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada. Vous avez certainement entendu parler du Yeti, mais connaissez-vous l'Almasti, le Yeren ou encore le Barmanou, ces hommes sauvages inconnus qui existeraient dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan? Et savez-vous que le Mokele Mbembe est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centrafrique? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d'être surpris. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter aux monstres de légende qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie.
Du monstre du Loch Ness au Yeti, sur la piste des créatures mystérieuses. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine.
Papa, c'en est un si ça se trouve.
Un quoi?
Un Bigfoot.
Un Bigfoot?
Sacré bon Dieu! Oh pardon papa.
Non, ça va pour cette fois. Je cherchais justement ce qu'on pouvait dire.
Septième épisode, sur la piste du Bigfoot au Grand-Pied. Avec dans les rôles principaux, Benoît Grison, biologiste spécialiste de la cryptozoologie.
On vous décrit un grand singe, gigantesque cette fois-ci, qui ferait dans les 2,50 m, qui laisse des empreintes impressionnantes derrière lui. Bon.
Egon Kragel, passionné par l'histoire du Bigfoot.
L'homme sauvage est baptisé Bigfoot, grand pied, par un homme du chantier, et son nom se répand rapidement à travers le pays.
Et Éric Joie, le cryptozoologue sans peur qui est parti affronter le Bigfoot dans les forêts du Texas.
Il pousse une espèce de cri, une espèce de hurlement. Je relance mon cri, nous avons une réponse plus proche. Donc, il venait. On n'est pas resté sur place. On a vite retourné au camp, il s'amène.
Qu'est-ce que c'est?
Un Bigfoot? Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. C'est l'affaire du siècle. C'est une découverte capitale. Il faut la ramener avec nous à la maison.
Nous sommes le 27 août 58, dans la réserve des Indiens Hoopa, près de la vallée de Bluff Creek, à l'extrême nord de la Californie. Gerald Crew, qui conduit de gros engins de chantier, fait partie d'une équipe qui creuse une route à travers la forêt locale, une forêt épaisse et quasi inexplorée qui semble abriter bien des mystères. Gerald fait partie de l'église baptiste du coin. C'est un homme croyant, sobre et réputé très honnête. Ce matin-là, il découvre sur le chantier, près de son caterpillar, d'étonnantes empreintes. Ce sont d'énormes traces de pieds nus, mesurant 40 cm de long sur 17 cm de large. Ce qui frappe Gérald, c'est que ces empreintes paraissent étonnamment humaines. Quelle créature, qui visiblement se promène là durant la nuit, peut laisser de telles traces sur la terre humide? Certes, les ouvriers sont décontenancés, certains pensent même qu'il s'agit là d'une mauvaise blague, mais on finit par passer à autre chose. Les hommes savent qu'une longue journée de labeur les attend. Un mois plus tard, coup de théâtre, les mêmes empreintes réapparaissent. Cette fois, les ouvriers s'interrogent, perplexes. Ils discutent entre eux et aucun ne semble avoir monté une telle surpercherie. Une étrange créature semble effectivement hanter l'orée de la forêt. La femme d'un des hommes, Miss Jessie Bemis, envoie une lettre au quotidien Humboldt Times de la ville d'Eureka. Elle écrit « Une rumeur commence à circuler ici parmi nos ouvriers. Ils soupçonnent la présence dans les bois d'un homme sauvage. Au début, nous avons cru à une blague, mais depuis hier, mon mari est convaincu de l'existence d'une telle créature. Auriez-vous déjà entendu parler d'un tel homme sauvage ?» Le rédacteur en chef, Andrew Ganzoli, décide de publier la lettre et reçoit plusieurs témoignages identiques. L'homme sauvage est baptisé Bigfoot, grand pied, par un homme du chantier, et son nom se répand rapidement à travers le pays. Gerald Crook, un ami taxidermiste à initier au maniement du plâtre de Paris, va réaliser le 1er octobre 1958 de superbes moulages de ses empreintes. Les photos de ces moulages vont faire la une des magazines. Le Yeti américain vient de naître et rejoint nos bestiaires mystérieux. Il s'appelle désormais Bigfoot.
C'est donc en 1958 que Bigfoot fait son entrée fracassante dans les médias américains. Comme vient de nous le raconter Egon Kragel, un grand passionné de cryptozoologie, la discipline qui s'intéresse aux animaux encore inconnus de la science. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que c'est possible qu'il y ait encore de nos jours, en Amérique du Nord, en Colombie-Britannique, un grand bipède inconnu qui se balade dans les forêts?
Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Ma philosophie, de toute façon, c'est de rester dans l'ouvert, donc et de rester humble face aux merveilles que nous offre la nature. Et puis d'imaginer à nouveau des cadeaux fabuleux hein, du vivant. Je ne peux pas les refuser. Voilà. Donc je reste à la fois optimiste et gourmand de ce que le monde peut nous offrir encore.
Il faut en effet garder l'esprit grand ouvert pour pouvoir envisager l'existence d'un énorme bipède poilu qui semblerait plus proche de l'homme que du singe dans les forêts des États-Unis et du Canada. Outre-Atlantique, les médias parlent régulièrement du Bigfoot.
En terminant, vous savez que les congrès sont généralement des réunions sérieuses où des gens sérieux parlent de choses sérieuses. Tout cela pour dire qu'à Vancouver, un congrès très sérieux se déroule en ce moment pour discuter de l'existence du Sasquatch, l'abominable homme des montagnes de l'Ouest. Ghislaine Bouffard s'y est rendue.
Depuis des années, les montagnes de l'Ouest cachent un mystère. En marchant dans ces forêts, des personnes jurent avoir vu une créature moitié homme, moitié animal. Nous sommes au pays du Sasquatch, ou Bigfoot, comme on l'appelle aux États-Unis. Si ce film est authentique, on a affaire à un être qui marche comme un humain, mais qui ressemble à la fois à un ours et à un gorille.
Curieusement, on n'a jamais retrouvé de squelette de cette créature. Tout ce qu'on sait nous vient de la description de gens qui disent l'avoir aperçu. C'est suffisant pour maintenir la curiosité. Il y a d'ailleurs des mordus qui se réunissent pour partager leurs connaissances sur le Sasquatch.
Existe-t-il, oui ou non, un grand animal inconnu appelé Sasquatch?
Au premier congrès annuel sur le Sasquatch, on se demande s'il existe pour vrai. John Green, qui est sur la piste de cette bête depuis 40 ans, est convaincu que oui, même si tout ce qu'il a vu, ce sont des traces de pieds dont il a fait des empreintes.
Quelque chose est bien responsable de ces traces. Alors qu'est-ce que c'est?
Est-ce que vous y croyez?
Oh ben, disons que je suis quand même un peu sceptique. Hein. On attend toujours une preuve définitive de la bête ou de l'homme singe, je ne sais pas. Toujours est-il que dans la région centre-sud de la Colombie-Britannique, ça commence à être assez densément peuplé. Il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui se promènent. Il y a des de toutes les manières. Ça serait bien difficile pour ce monstre en question de rester caché si longtemps. Mais bon, c'est quand même un mythe intéressant pour ça donne une identité à la région. Disons.
Autant le dire tout de suite, l'existence du Sasquatch prête plutôt à sourire et n'est pas du tout acceptée par la communauté scientifique. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Dans le dossier du Bigfoot, il y a quelque chose qui exaspère les chercheurs qui se penchent sur cette affaire. Ce sont les empreintes laissées par cette créature. Elles sont tellement nombreuses, réparties dans des zones tellement grandes et certaines d'entre elles sont tellement crédibles qu'elles constituent une véritable énigme zoologique.
Le Bigfoot. Ben, c'est quoi? C'est une affaire qui surtout connaît une grande notoriété, même si elle existait avant, à partir de 1958.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Ça prend place en Amérique du Nord et les témoignages un peu crédibles de Bigfoot sont avant tout concentrés en Colombie-Britannique, pour ce qui est du Canada, et puis dans l'État de Washington et une partie de la Californie du Nord en ce qui concerne les États-Unis. Après, il y a une épidémie de témoignages de Bigfoot, on vous a même signalé des Bigfoot en Géorgie, etc. Mais comme par hasard, ça a peut-être un sens biologique, hein, qui sait, même si j'en doute, comme par hasard, les seuls témoignages bien crédibles et bien cohérents entre eux, avec des bonnes descriptions des témoignages de qualité, c'est toujours la même zone, Colombie-Britannique. Et puis pour ce qui est des États-Unis, c'est la Colombie-Britannique, donc c'est canadien, vous avez effectivement l'État de Washington, le nord de la Californie, l'Oregon. Bon. Et on vous décrit un grand singe, gigantesque hein, cette fois-ci, hein, qui ferait dans les 2,50 m, qui laisse des empreintes impressionnantes derrière lui. Bon, il y a quantité d'empreintes qui sont des faux, évidemment, vous en doutez. Et d'ailleurs, dès le lancement de la médiatisation du Bigfoot, on a pu prouver en 1958 que certaines des empreintes étaient des faux grossiers. Mais à côté de ça, vous avez des centaines et des centaines d'empreintes qui sont faites dans cette vaste région là, donc de la Colombie-Britannique, de l'État de Washington, du nord de la Californie, qui est assez écologiquement homogène, et même de l'Oregon. Vous avez des centaines et centaines d'empreintes à des dizaines d'années d'écart, à des centaines de kilomètres de distance, qui sont tout à fait cohérentes entre elles. Vous allez me dire, bon, oui, cohérentes entre elles, mais ils ont peut-être les mêmes modèles pour perpétrer leur falsification, les faussaires, quelles que soient les régions où ils agissent. Non, moi je parle cohérente entre elles, anatomiquement certes, mais aussi crédible parce qu'on sait de l'anatomie comparée. Vous avez un grand anatomiste spécialisé dans la locomotion des primates, donc la biomécanique de la marche, Jeffrey Meldrum. Et Jeffrey Meldrum a consacré des décennies à l'étude des moulages crédibles de Bigfoot ou de Sasquatch, comme on dit. Des décennies, je dis bien. Et le point de départ de son investigation à Meldrum, c'est de se dire, ça a été le cas pour les premières empreintes qu'il a étudiées, le Bigfoot, c'est du folklore. Je vais étudier des moulages qui ont été faits récemment et je vais démonter ça en 2 heures. Et en fait, il se trouve que 30 ans après, il est toujours à étudier ça, c'est-à-dire que les faux, il les identifie très vite. Mais il persiste à penser qu'il ne comprend pas comment les empreintes d'apparence crédible anatomiquement auraient pu être produites par falsification. Alors Meldrum est tout sauf un naïf, hein, je précise. C'est un scientifique, un biologiste de renommée internationale, un des meilleurs des spécialistes internationaux de l'anatomie du pied chez les primates et chez les hominiens. Les hominiens étant des primates, mais disons, il s'est aussi bien intéressé à l'anatomie du pied de l'australopithèque qu'à celle de l'être humain actuel ou à celle des grands singes. Et là, il dit une chose simple. Pour ce qui est des empreintes de Sasquatch dont je n'arrive pas à démontrer qu'il s'agit de faux, eh bien toutes ces empreintes de Sasquatch dont je n'arrive pas à démontrer qu'il s'agit de faux sont cohérentes entre elles, quelle que soit la date de relevé, la date de moulage ou la sous-région considérée. Et d'autre part, aucune de ces empreintes, je n'arrive à les expliquer autrement que par le fait que ça pourrait être un être vivant authentique. Je ne vois pas comment on aurait pu falsifier ça.
Dans Détour, l'épisode 4 de la saison 5 de la mythique série X-Files, les agents spéciaux du FBI Mulder et Scully vont être confrontés au Bigfoot. Ils appliqueront toutes leurs connaissances d'enquêteurs pour tenter d'analyser ces empreintes. Mais dans la réalité, beaucoup d'empreintes de Bigfoot ont été aussi soumises à des analyses scientifiques et policières très poussées, avec à chaque fois des résultats surprenants.
J'ai trouvé des empreintes. Regardez.
Les mêmes que la première fois.
Et où ça ?
Dans la forêt. Le poids est distribué de façon étrange. À première vue, elle semble humaine, mais cette créature ne marche que sur l'avant du pied, un peu comme un animal.
Jusqu'à nos jours, il y a des milliers de kilomètres de pistes d'empreintes de Bigfoot. Oui. Et il y a des scientifiques de haut vol, très renommés, qui prennent certaines de ces empreintes très au sérieux.
Oui, parce que notamment, il y avait une série d'empreintes qui montrent un pied qui serait pathologique. Et on se dit, mais comment quelqu'un aurait pu avoir cette idée baroque de fabriquer une empreinte de pied qui correspond à un pied pathologique ?
Éric Buffetot, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ».
Ça avait beaucoup impressionné certains scientifiques, justement, comme Grover Krantz, qui s'est beaucoup intéressé à ça, qui était un anthropologue tout à fait sérieux par ailleurs. Et c'est vrai que le Bigfoot, en fin de compte, ce sont ces empreintes, hein, qui sont vraiment le gros morceau qui est difficile à expliquer. Les témoignages de gens qui disent en avoir vu, bon... Il y en a, bien sûr, mais c'est comme toujours, ce ne sont que des témoignages. Il faut croire que la personne dit la vérité, elle le dit peut-être, ou elle dit ce qu'elle a cru voir, bien sûr. Les empreintes, ce sont des choses concrètes. Alors évidemment, on peut faire de fausses empreintes, mais il faudrait vraiment se donner beaucoup de mal pour en faire, comme vous disiez, des milliers de kilomètres d'empreintes à travers les endroits les plus invraisemblables du nord-ouest de l'Amérique du Nord. Donc ça laisse un gros point d'interrogation, disons.
Alors on a même trouvé des crêtes digitales, des empreintes digitales, des dermatoglyphes, comme on dit, sur certains orteils.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Sur certains des moulages de prétendues empreintes de Bigfoot. Et alors, actuellement, avec certains polymères, on peut simuler ça sur un moulage. Hein, il y a Emmanuel Janssens-Castils, qui est un grand taxidermiste franco-belge, qui sait le faire. Sauf que cette technique n'a qu'une vingtaine d'années maximum. Et avant, elle était inconnue dans le monde des taxidermistes. Or, il y a des empreintes très anciennes, hein, des années 1960, des empreintes supposées du Bigfoot, qui portent des crêtes digitales. Ce qui ne prouve pas, bien sûr, dans l'absolu, que le Bigfoot existe. C'est toute la nuance. Mais le point d'achoppement le plus fort, c'est les empreintes crédibles, qui sont nombreuses, il y en a des centaines et des centaines, et à des époques et à des régions bien différentes, parce que les témoignages, on peut toujours un peu les récuser, même s'il y a beaucoup de témoignages visiblement sincères. Après, les régions où les témoignages crédibles prennent place, elles ne sont pas n'importe quelle région. Pour avoir été dans l'État de Washington à deux reprises, c'est des régions forestières énormes, où il y a une démographie très faible, donc il y a une certaine crédibilité écologique. Cependant, le problème qui reste, aussi troublant que soient certaines empreintes, c'est qu'un animal qui serait un grand singe d'environ 2,50 m de haut, qui se baladerait certes dans des zones très très peu peuplées du Canada, la Colombie-Britannique ou des États-Unis, notamment l'État de Washington, comment se fait-il qu'on ait, après toutes ces décennies, et c'est une affaire qui remonte au début de la conquête de ces territoires-là par les Blancs, comment est-ce que ça se fait qu'on n'ait jamais eu de cadavre? Et ce qui faisait dire à un ami et collègue, Richard Greenwell, un zoologiste qui s'intéressait à la cryptozoologie, qui est mort déjà il y a de nombreuses années, un jour il m'a dit, Benoît, comme c'était quelqu'un de sceptique ouvert, il disait, le Bigfoot, je résume les choses comme ça. Quand je regarde les arguments en faveur du Bigfoot, notamment les études d'empreintes de Meldrum, le lundi, le mardi, je suis pour le Bigfoot, son existence biologique réelle. Le mercredi, je m'interroge. Et puis, le reste de la semaine, je deviens franchement très très sceptique quand je vois les contre-arguments. Donc c'est une affaire qui n'est pas tranchée, mais qui est plus troublante qu'on ne le croit à cause de ces empreintes. Bon.
Il n'y a pas que des empreintes encombrantes dans le dossier du Bigfoot. Il y a aussi un film. Et quel film ? C'est le film le plus célèbre, le plus net jamais réalisé en cryptozoologie. Il a été tourné par un certain Roger Patterson en octobre 1967 avec une caméra 16 mm dans la région de Bluff Creek, en Californie.
Le film de Roger Patterson, ça fait partie des grandes vedettes de la cryptozoologie. Il y a eu énormément d'analyses qui ont été faites, de commentaires.
Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue.
Qu'est-ce qui se passe? Résumé, bien entendu, brièvement, parce qu'il y a même des livres qui ont été écrits sur cette affaire de Patterson. Patterson, en réalité, est un chercheur de Bigfoot. C'est un fermier passionné par l'étrange, etc., qui s'intéresse au Bigfoot parce qu'il en a entendu parler. Patterson, en réalité, va voyager à cheval avec son ami Robert Gimlin, qui finalement voyait dans cette occasion de balade une bonne partie de pêche. Et en ce jour de 1967, eh bien, les deux hommes avaient amené du matériel pour camper. Patterson avait attaché une petite caméra dans ses affaires et il pensait peut-être l'utiliser pour filmer des traces de Bigfoot. Ce 20 octobre 67, vers 13h-13h15, il longeait le cours d'une petite rivière asséchée et soudainement, leurs chevaux se cabrent violemment Patterson tombe à terre. Gimlin, qui est un meilleur cavalier, parvient avec certaines difficultés quand même à maîtriser sa monture. Mais on sent que les chevaux ont peur. Les chevaux regardent dans toutes les directions. La suite va être très rapide. La suite va se passer à peu près en 2 minutes. Patterson lève les yeux, il empoigne sa caméra, l'enclenche, se met à filmer la créature qui avait fait peur aux chevaux, et d'un coup, il constate que c'est un Bigfoot et que c'est un Bigfoot femelle qui mesure environ, à ses dires, 2 mètres de haut. Patterson se met à courir tout en filmant avec sa caméra. L'animal qui était au départ accroupi se redresse et il part tranquillement. Le film commence et Patterson dira que la distance qui le sépare du Bigfoot, c'est une distance d'environ 30 mètres. Mais l'animal aperçoit Patterson et l'animal va observer sans aucune crainte Patterson et il va s'éloigner placidement, gentiment. Patterson déclara plus tard qu'il avait eu peur, bien entendu. Pourquoi ? Et voici ce qu'il dit. La créature m'a regardé avec une expression où se mêlait le mépris, le dégoût, alors que j'étais planté là, à environ 31 mètres de l'animal.
C'est une histoire incroyable.
Éric Buffetaut, auteur du livre « À la recherche des animaux mystérieux ».
Ce film a fait l'objet d'analyses sans nombre par des spécialistes du cinéma, du mouvement animal, etc., etc. Sans qu'on arrive à une conclusion ferme, est-ce quelqu'un habillé avec une peau de gorille ou est-ce un véritable animal inconnu ? C'est pas un film qui est d'une qualité exceptionnelle, mais c'est pas non plus très très mauvais quand même. On voit très bien la créature qui se promène dans le lit d'une rivière et qui ressemble à une espèce de gros primate bipède velu, enfin qui a tout à fait l'aspect du Bigfoot ou même du Yeti extrême tel qu'on s'imagine. Et on n'arrive pas à conclure.
Ouais, on a du mal à le croire.
Le film dure 53 secondes.
Michel Ballot.
Et comporte 952 images en couleur. Et bien sûr, l'image la plus célèbre qui a fait le tour du monde, qu'on a vu dans tous les magazines, c'est l'image 352, où le Bigfoot se retourne vers Patterson et Gimlin.
C'est peut-être le film le plus analysé, enfin en tout cas un des films le plus analysé pour trouver une supercherie. Mais je veux dire, je ne sais pas si les auditeurs s'en rendent compte, mais la BBC a fait des reconstitutions, il y a des grands spécialistes du cinéma qui analysent, on a redigitalisé l'image pour avoir une meilleure... Et la supercherie n'est toujours pas tombée. On n'a toujours pas pu faire éclater au grand jour que c'était vrai ou que c'était faux.
Il reste un doute sur ce film.
Éric Buffetaut.
C'est quand même extraordinaire.
Mais c'est vrai, si ce film est réel, on voit quand même un singe de près de 2 mètres de haut se balader.
Et qui n'est pas un singe connu. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a amené un gorille haché dans la nature, ni un chimpanzé. C'est quelque chose qui n'est pas un animal connu de la science. Ça, c'est clair. Alors, effectivement, ça fait réfléchir.
Oui, parce que c'est l'animal, si on le décrit, c'est pas un gorille, c'est pas un chimpanzé. Il se tient vraiment bien debout. Il y a une démarche assurée. Il a des bras plus longs. Enfin, c'est tête bizarre. Enfin, on peut trouver le film sans problème sur Internet facilement.
Ah oui, on voit partout. Oui.
C'est très très. Ouais, c'est un des films les plus célèbres de la cryptozoologie. C'est pas le plus célèbre.
Sans aucun doute. Oui, c'est clairement. Oui. Et puis, ça reste un mystère.
Pour annoncer les choses clairement, abattre mes cartes sur la table, personnellement, je ne crois pas à l'authenticité.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Mais en tant que scientifique, je dois reconnaître que je ne suis pas capable de démontrer la fausseté de cette soi-disant pièce à conviction. Donc, ça n'est qu'une intuition, le fait que je considère cette info. Alors, sur quoi se base cette intuition ? Plusieurs choses. Roger Patterson, au moment où il est censé filmer avec son ami Bob Gimlin, par hasard, alors qu'il est dans la région de Bluff Creek, dans le nord de la Californie et que avec son ami Bob Gimlin, il se promène à cheval dans la forêt et il filme avec une petite caméra qu'il avait souvent avec lui, soi-disant le Bigfoot. Au moment où il fait ce film de manière très opportune du Bigfoot, Roger Patterson est au bord de la ruine et on sait très bien, il avait tenté de se lancer dans différents commerces, on savait très bien chez ses amis qu'il était réduit aux dernières extrémités. Il avait même confié à certains amis qu'il allait faire un très gros coup qui allait changer sa situation financière. Et ça, quelques semaines avant qu'il filme fort opportunément le Bigfoot.
Aïe.
Déjà. Deuxièmement, ça c'est un fait, parce que beaucoup, même d'amis authentiques qui restent, qui considèrent toujours, il est décédé maintenant, Roger Patterson, qui considère toujours que c'est un grand ami. Ils ont rapporté ça. Deuxième chose, on n'a pas l'original du film, c'est embêtant. Il y a quand même un spécialiste d'analyse vidéo qui a montré que le film tel qu'on le connaît est sans doute un montage entre deux bobines différentes. Alors évidemment, ceux qui défendent l'authenticité du film diront « Bah oui, il a peut-être utilisé plusieurs bobines vidéo et puis il a peut-être monté les meilleures vues. » Mais enfin bon, c'est un peu troublant pour quelque chose qui est censé être un document brut et opportun. Et puis, il y a l'analyse cinématique, comme on dit, du mouvement de la créature sur le film. Alors, comme on n'a pas l'original et qu'on ne sait pas à quelle vitesse ça a été tourné, selon la vitesse à laquelle ça aurait été tourné, on peut conclure que c'est un faux, parce qu'à ce moment-là, la démarche ne serait pas du tout crédible. Ou alors, si on adopte l'hypothèse d'une autre vitesse de tournage, on peut conclure qu'à ce moment-là, c'est une façon de marcher qui n'est pas humaine. Sauf que les méchants sceptiques vous répondent, mais même si ça a été tourné à la vitesse qui permettait de conclure que c'est une façon de marcher qui n'est pas humaine que montre le Bigfoot de Patterson, eh bien une façon de marcher pas humaine, un bon acrobate ou un bon sportif peut s'entraîner et la maintenir constante le temps du film. Et puis éthologiquement, alors ça c'est limite ce genre d'argument, mais on connaît aucun grand singe, alors peut-être que le Bigfoot est le seul singe comme ça, qui alors qu'il est filmé se retourne presque pour faire hello comme on voit, c'est pas à ce point-là, je caricature, vers la caméra. Moi, qu'on puisse dire, c'est que en fait, ce Bigfoot ne semble vraiment pas stressé par l'homme, alors que tous les grands singes qu'on connaît sont plus stressés par l'homme que par n'importe quelle autre présence d'un animal sauvage. Ils ont peut-être raison, vu ce qu'on leur a fait en termes de biodiversité. Donc, il y a un scepticisme quand même extrême qui s'impose pour ce film, mais évidemment, on ne peut pas démontrer, vu qu'on n'a pas l'original et qu'on ne sait pas à quelle vitesse a été tourné, que le film est inauthentique. Et c'est le problème qu'ont les gens sceptiques comme je le suis et comme le sont d'autres par rapport à ce film.
Seattle Central.
Mon nom est George Henderson et j'habite au 437 Mining Drive. Je vous appelle parce que... Il se passe une chose curieuse.
Quel genre de chose, monsieur Henderson ?
Une chose plutôt grande. Vous allez penser que je suis fou, mais... C'est un Bigfoot.
Oui, bien sûr, oui. Oui, ils sont casse-pieds, des fois.
Avec le film à succès Bigfoot et les Anderson, réalisé par William Dear en 1987, notre bipède velu au grand pied est entré définitivement dans la culture populaire. Pourtant, il faisait déjà partie de la vie quotidienne des Indiens il y a bien longtemps.
Les premiers témoignages du Bigfoot remontent aux tribus indiennes.
Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue.
Les Indiens connaissaient cet être bipède, en ont parlé aux premiers colons. Historiquement, on retrouve beaucoup de témoignages de certaines tribus indiennes qui parlent de cet être bipède. Mais c'est surtout, effectivement, dans les années 60 que le Bigfoot a commencé à être connu sous le terme de Bigfoot, de Sasquatch.
On recense aujourd'hui des centaines, voire des milliers d'apparitions de Sasquatch aux États-Unis et au Canada. Et on ne résiste pas à vous faire écouter un autre témoignage historique du Bigfoot trouvé et raconté par Egon Kragel, passionné de cryptozoologie.
William Rowe est un chasseur professionnel, donc un observateur précis de la faune sauvage. En 1955, par une journée ensoleillée, alors qu'il explore les environs d'une mine abandonnée sur le mont Mica, en Colombie-Britannique, il aperçoit un bien étrange animal. Il décide de témoigner et accompagne son récit d'une déposition sous serment faite au tribunal d'Edmonton le 26 août 1957. Et voici ce qu'il raconte. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours observé les comportements et habitudes des bêtes sauvages. Elles me fascinent. Mais j'ai vécu une expérience incroyable, tout près de la petite ville de Tête Jaune Cache, en Colombie-Britannique, à environ 80 km de Jasper. C'était en octobre 1955, il était 3h de l'après-midi, je chassais. En débouchant sur une clairière, j'ai aperçu un animal. Sur le coup, j'ai cru que c'était un ours, un grizzly. J'ai pu distinguer une partie de sa tête et le haut d'une de ses épaules. Mais un instant plus tard, lorsqu'il se redressa et s'avança à découvert, là, je vis que ce n'était pas un ours. Ma première impression fut que j'avais affaire à un homme très massif, de 1m80 de haut, de presque 90 cm de carrure et pesant probablement dans les 130 kg. Il était couvert de la tête aux pieds de poils bruns foncés à l'extrémité argentée. Les bras de la créature étaient plus épais que ceux d'un homme et plus longs, au point de descendre presque jusqu'aux genoux. Question proportion, ses pieds étaient plus grands que ceux d'un homme, d'une douzaine de centimètres de large à l'avant, puis diminuant sensiblement vers les talons. Quand elle marchait, c'était le talon qui touchait le premier le sol, et je pus voir la peau gris-brun de sa plante des pieds. La créature s'approcha du fourré où j'étais caché, à peine à 5 ou 6 mètres de moi. Ses lèvres s'enroulaient autour des feuilles pendant qu'elle les mangeait. J'étais assez près pour voir que ses dents étaient blanches et régulières. L'arrière de la tête était plus élevé que l'avant, le nez était large et aplati, les lèvres et le menton s'avançaient au-delà du nez. Les poils qui recouvraient la tête ne laissaient nus que les zones autour de la bouche, du nez et des oreilles, donnant à la créature un air autant animal qu'humain. Aucun poil, y compris ceux recouvrant l'arrière de la tête, ne dépassait les 2 ou 3 cm, et ceux du visage étaient bien plus courts. Ses oreilles avaient la forme de celles d'un homme, mais ses yeux étaient petits et noirs comme ceux d'un ours. Et son cou n'était pas humain, plus épais, plus court que celui de tous les hommes que j'avais pu voir jusque-là. Je me suis demandé s'il n'y avait pas dans les parages une équipe de cinéma qui était en train de tourner un film et que j'observais là un acteur déguisé, mais je réalisais rapidement qu'il était tout à fait impossible de réaliser un tel spécimen. Finalement, l'être sauvage dut sentir mon odeur. Elle m'aperçut et eut une expression de surprise, si comique que cela me fit sourire. Elle se redressa et repartit rapidement en marchant dans la direction d'où elle était venue. L'espace d'un instant, elle me regarda par-dessus son épaule, pas vraiment effrayée, mais plutôt comme si elle voulait éviter tout contact. Je me suis dit, je vais tirer sur elle. C'est un spécimen rare qui pourrait intéresser les scientifiques du monde entier. Mais j'ai baissé mon arme. La créature s'éloignit rapidement. Elle tourna sa tête une dernière fois pour me regarder. Je l'ai jugée trop humaine pour la tuer. Si j'avais tiré, je ne me le serais jamais pardonné.
Un chasseur qui n'abat pas le Bigfoot. Voilà qui est étonnant pour Éric Buffeteau, célèbre paléontologue.
Il y a un nombre incalculable de personnes qui s'intéressent au Bigfoot, qui dans une région du monde où certains vous diront oui, c'est quand même assez sauvage, l'ouest des États-Unis et du Canada, mais malgré tout, c'est des régions qui sont peuplées, où des gens se promènent avec des moyens techniques. Mm-hmm. Quand on parle de la partie États-Unis, c'est un endroit où tout le monde se balade avec des armes et on s'étonne qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait descendu un Bigfoot.
Même, on n'a jamais retrouvé d'ossements, d'excréments, non. De poils, de...
Non, rien. Alors... Il y a des histoires fumeuses sur des gens qui disent « oui, j'en ai tué un, et puis pour une raison ou pour une autre, j'ai pas pu récupérer les cadavres ». Enfin bon, on peut croire ce qu'on veut, évidemment, mais c'est quand même très étrange.
Pourtant, les chasseurs de Bigfoot sont devenus très nombreux au fil du temps. Mais ce sont pour la plupart des chasseurs sans fusil. Leur but est de prouver l'existence de l'animal inconnu, pas de l'abattre. Il est temps de vous présenter notre chasseur de Bigfoot national, Éric Joie. Naturaliste et cryptozoologue, il est parti plusieurs fois traquer le Sasquatch.
J'aurais voulu savoir, comment est-ce qu'on se prépare ? Parce que c'est pas quand même anodin d'aller, entre guillemets, pas le chasser, parce que vous n'êtes pas des chasseurs.
Non, pas du tout.
Voilà. Mais entre guillemets, chasser le Bigfoot. Où est-ce qu'il faut aller ?
Alors, on fait une démarche totalement zoologique, cryptozoologique, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'il y a comme témoignage. Là, on avait décidé le Texas parce que à cette époque-là, il y avait des témoignages qui étaient très circonstanciels, visiblement, et répertoriés comme étant valides. Donc, c'est là-dessus qu'on parle. Alors, il y a des zones où les premiers témoignages ont été recueillis, qui est la côte ouest des États-Unis, dès les années 50, où des recherches ont été menées donc dans toute cette zone Canada, Californie, État de Washington, Californie du Nord, Oregon, Colombie-Britannique. Tout ça a été bien étudié, et principalement, même qu'à un certain moment, on a cru que cette créature était cantonnée dans ces régions-là, alors que finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des témoignages dans toute l'Amérique du Nord, que ce soit de l'est en ouest ou de nord au sud.
Et vous avez pris de l'équipement pour le filmer, le photographier, alors, recueillir des choses, des poils.
C'est vrai que l'équipement, ce qui me concerne, s'est constitué petit à petit, au fil du temps. Parce que c'est un équipement qui est onéreux. Caméra thermique, ça a été ma dernière acquisition il y a 2 ans. C'est quand même dans les 2 000-2 500 euros pour une caméra de base. Alors bien sûr, on peut en avoir à 250 euros, 300 euros, mais la qualité d'image qu'on aura ne sera pas celle d'une caméra thermique à 2200 par exemple, ou 2500 euros. Même chose pour les amplificateurs de lumière. Il faut tourner aussi dans les 1500 euros. Alors chaque année, bien sûr, les prix peuvent baisser un petit peu, mais on tourne toujours dans les 1000-2000 euros. On peut acheter un amplificateur de lumière ou un infrarouge à 200 euros, mais la qualité sera totalement inférieure. Il y a une pixelisation qui sera beaucoup plus importante, etc., etc. Donc voilà, il faut aussi s'équiper d'équipements sonores. Un bon enregistreur, c'est toujours bien. Un micro de valeur, ça coûte aussi dans les 200-250 euros. On vient vite, moi j'ai fait les calculs, on vient vite finalement à des dépenses qui tournent autour de 10 000 euros.
Il faut donc faire des économies avant de suivre des pistes d'empreintes mystérieuses dans la forêt. Car chasser le Sasquatch, ça a un prix. Et c'est sans compter le voyage sur place. Il faut en effet se rendre aux États-Unis ou au Canada, puisqu'on n'a aucune chance de trouver un Bigfoot en Belgique.
On a réussi finalement à partir en 2005, en se disant quel est l'endroit où les témoignages sont les plus récents. Et il se fait qu'à l'époque, c'était le Texas. Et on décide de partir au Texas en 2005. Nous avions repéré notamment une empreinte de pied, de taille humaine. En 2006, j'avais eu quelque chose de bizarre qui était arrivé. On avait découvert un cadavre de cochon sauvage, d'une laie, donc d'une truie, si on peut dire. On a retrouvé le cadavre d'une grande truie en question. J'ai pris des photos qui étaient à moitié dévorées. Alors on s'est dit, si c'est un animal qui a été chassé par les fermiers, or nous avions été en contact avec des fermiers lors d'une chasse à cours en question, qui étaient passés à travers notre camp, des chiens et des chevaux étaient passés à travers notre camp un matin à 8h, on avait tous été réveillés, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc l'explication était là. On ne va pas laisser un cochon de cette taille-là, comme ça, dans la nature. On la recherche, on en fait du boudin par la suite, etc. Donc, qui avait tué cet animal, nous ne savons pas. Au bout de 3 jours, entre guillemets, ça c'est important ce que je vais dire peut-être pour la suite, au bout de 3 jours, il n'y avait plus de traces de l'animal. Hein. Il avait été complètement nettoyé, plus un os, mais plus rien. Une espèce de flaque noirâtre à l'endroit où il était, c'est tout ce qui restait de l'animal.
Est-ce que vous avez rencontré des témoins ?
Alors oui, il y avait des témoins, notamment le groupe de Texans, qui avait raconté que quelques semaines avant, une équipe de reporters était venue filmer. La journaliste est très sceptique de l'affaire en question, jusqu'au jour où ils sont sortis un soir et elle est tombée dessus, quoi. Des témoignages de policiers en patrouille, qu'à un certain moment, on voit un cerf détalé devant lui et un Bigfoot qui court derrière. Il y a du potin dans les buissons de l'autre côté de la route et le Bigfoot se redresse avec une patte de l'animal en question. Un autre témoignage était un policier qui voyait régulièrement son réfrigérateur qu'il avait mis à l'extérieur sur la véranda qui était pillé, alors qu'il avait été bien fermé et tout. Il dit ça, c'est pas un ours qui est capable de faire ça, d'aller chercher et de disparaître avec les affaires. Il y a donc, de plus, il n'y a pas d'ours au Texas. Donc il dit, quel est le voleur qui vient me piller? Et un jour, il avait décidé de mettre des alarmes. Il voit dans son jardin la nuit quelque chose comme un monticule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas d'arbre à cet endroit-là. Il a son revolver, la chose bouge, il tire dessus. Alors, à chaque fois, notamment celui qui était dans sa voiture de patrouille, son chef lui a dit « Tu n'en causes pas, hein. Sinon ton avancement de carrière, tu peux te brosser. Hein. » Donc voilà, une espèce d'emmerda. Pourquoi autour de cela? Parce que c'est des zones parfois touristiques. Et admettons qu'on signale un Bigfoot dans le bois de la Cambre, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui iront l'après-midi se promener dans le bois de la Cambre ou la forêt de Soignes? Peut-être que non.
Et comme tout bon chasseur de Bigfoot qui se respecte, Éric Joye a non seulement dû chercher et trouver des empreintes étonnantes sur le terrain, mais il a dû également en effectuer des moulages, et ce n'est pas si simple.
J'ai fait un moulage qui a malheureusement assez mal tourné, parce qu'on apprend par l'expérience et par beaucoup de lectures. Au départ, on s'est dit, j'étudie le Bigfoot, et puis on s'intéresse à la paléontologie, puis on s'intéresse à la primatologie, puis on s'intéresse à la botanique finalement. Ah oui, il se nourrit. Donc, est-ce que dans cette zone, quelles sont les plantes comestibles? Puis comme les grands singes, les chimpanzés utilisent des plantes médicinales aussi, on le sait. Bon, Bigfoot doit le faire aussi. Donc, quelles sont les plantes médicinales de l'endroit qu'il pourrait utiliser, etc. Donc, finalement, on s'intéresse à plein de choses autour de cela et on apprend beaucoup. Alors, pour les empreintes, oui, j'en ai une, j'en ai vu. Alors, ça, c'était pour mon premier voyage en Colombie-Britannique en 2006. Je trouve une empreinte gigantesque, une empreinte de pied qui a pas moins de 47 cm de long et 23 de large. On l'a protégée, le lendemain on est revenu avec du plâtre, j'ai fait l'empreinte. Malheureusement l'empreinte a cassé, c'est pas grave, mais en plus à la toile. Ils m'ont enlevé une partie parce que j'ai récupéré mon bagage 2 jours plus tard. J'ai compris pourquoi. Ils avaient vu ce truc dedans et c'était peut-être imaginé qu'un trafic de drogue quelconque. Hein. Quand j'ai voulu reconstituer les morceaux, j'ai dit « Ah ouais, il me manque des morceaux ». Alors j'ai quelques orteils, j'ai le talon qui est quand même important. Il avait 8-10 cm de profondeur. On voit très bien que c'est une vraie empreinte parce que on voit que la créature en question a pris position sur son talon pour pouvoir grimper, faire le mouvement comme on le fait sur le talus en question. Et donc le pied avait basculé du talon vers les orteils et le centre était beaucoup plus faible. Bien sûr, c'est là qu'il a cassé. Bon, maintenant je sais que si j'avais mis des brindilles de bois dans mon plâtre, etc., ça aurait... à l'époque, je le savais. Bon, maintenant je le sais, qu'il y a moyen de pallier à ce problème-là. Et donc voilà, ça c'est une empreinte qu'on a trouvée.
Mais finalement, ce ne sont pas cette empreinte trouvée ou les témoignages recueillis sur place qui ont le plus marqué notre chasseur de bipèdes velus. Car vous allez comprendre que quand on part traquer le Bigfoot, il faut des nerfs solides.
J'y suis retourné dès 2008, où j'ai vécu des trucs tout à la fois extraordinaires. J'y suis retourné en 2009 également, où là j'ai également vécu des trucs complètement extraordinaires. Des coups dans les arbres, ce que les témoins rapportent. J'ai même eu en 2009, j'étais dans la forêt avec un de mes collègues canadiens et un de ses amis. On avait été vers 8h du soir dans la forêt, très loin. On arrive près d'un petit étang et il me dit « Tiens, lance ton imitation de cri de Sasquatch. » Il y a des enregistrements qui sont attribués au Sasquatch parce qu'on n'a pas pu les attribuer à un autre animal, donc on a supposé que c'était au Sasquatch. Je lance mon cri et de l'autre côté de l'étang, 150 mètres, coup dans les arbres. Finalement, je reprends moi-même un bâton, je tape contre un tronc d'arbre, j'ai une réponse. Et la réponse bouge. Il y a un va-et-vient et ça dure 20 minutes. On a eu un échange comme ça d'une vingtaine de coups. Je frappe, il répond, je frappe, il répond, je frappe, il répond. Ce phénomène du coup, je l'avais déjà vécu cette année-là parce que j'étais seul dans le camp à l'époque et Pratiquement tous les soirs, j'avais le même coup, bang, 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 d'un côté comme de l'autre, vers 8h du soir. Autant dire qu'on n'emmène pas large à 8h du soir quand il y a quelque chose qui bouge autour de vous. Et que vous êtes tout seul au milieu d'une forêt, on se dit, ouais, qu'est-ce qui va m'arriver? Rien du tout. Puis on réfléchit, on se dit, bon, si maintenant, au bout du 5e jour, je commence à avoir les coups, ils savent certainement que je suis là au moins depuis 5 jours. S'ils avaient voulu attaquer... Bah, il l'aurait déjà fait dès la première nuit. Ok, c'est rien. J'ai eu le cas également 3h30 de l'après-midi. J'étais sorti sur le chemin qui mène à ce camp-là en question. J'étais en train de filmer des écureuils. On dit, on va faire de l'illustration. Bang, bang, au fond de la forêt. Bang, bang. Et ça a duré aussi un quart d'heure. J'ai eu des cris aussi. Ça, j'ai connu.
Premier... Vous les avez enregistrés?
Ah, malheureusement, à l'époque, j'ai essayé, j'avais que ma petite caméra, j'avais pas l'équipement, je l'avais pas pris. Mais écoutez, vous allez sortir ici dans la rue, vous savez pas prendre nécessairement votre appareil photo et votre gros truc. Bon, j'ai essayé avec ma caméra, mais bien sûr, c'est un caméscope, c'est pas possible. À ce moment-là, la distance n'était pas possible, l'appareil n'a rien pris. Maintenant, je suis mieux équipé, je vais dire. Alors, le cri en question, oui, c'était un des premiers soirs. Notre collègue canadien Robert Kennedy, aucun rapport avec le président, hein, ce n'est qu'un homonyme, nous dit aller jusqu'à la colline et puis il me dit « lance ton cri de Sasquatch ». Ce que je fais, et j'obtiens de l'autre côté, à plusieurs, je peux pas évaluer la distance, mais assez loin, mes proches, malgré tout, une réponse. Une espèce de hurlement. Je relance mon cri. J'ai de nouveau une réponse, plus proche. Donc, il venait. On n'est pas resté sur place. Hein. On est vite retourné au camp. Il s'amène. Le lendemain, on était en train de discuter à trois quand on entend dans les buissons vraiment un gros animal autour du camp qui se déplace, mais quelque chose de bruyant, hein, comme vraiment une grosse bête qui bouge. On a braqué nos lampes vers l'endroit et plus rien.
Alors, vous dites que vous savez imiter le cri du Bigfoot. Je suis obligé de vous demander, ça ressemble à quoi, le cri du Bigfoot?
Alors, les enregistrements qu'on a sont variables.
Non, mais vous faites comment pour l'imiter?
Avec ma voix.
Et donc, ça donne quoi?
Un truc très aigu.
Mais on peut essayer pour voir.
Je vais essayer, mais... Bon, ok. Quelque chose de ce type-là. Bon, je peux le prolonger beaucoup plus long.
Et quand vous faites ça, ça vous répond de l'autre côté du lac,
alors, de vos expéditions. J'ai une réponse au niveau des coups et j'ai une réponse au niveau vocal, la première fois aussi.
Le son que vous entendez, qui vous répond, c'est de ce...
Non.
Ah non.
Alors c'est... Un truc de ce type-là, que je ne peux pas imiter. Mais là, ça m'a répondu deux fois.
Et c'est un son que le grognement que vous venez d'imiter, que vous n'arrivez pas à identifier...
Non. Non.
Donc, pour vous, ça ne fait aucun doute, parce que vous avez été sur le terrain, oui. Vous avez fait de nombreuses expéditions, vous nous avez parlé de toutes les preuves que vous avez récoltées. Il y a une sorte d'animal inconnu.
Oui.
Mais donc, c'est quoi, alors, pour vous?
Alors, pour moi...
Un singe, un homme, un
alors,
singe,
pour moi, c'est d'abord un primate.
D'accord.
Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que serait? Pour moi, c'est déjà pas un grand singe. À moins un grand singe qui aurait évolué et qui aurait pris une forme bipède. Mais moi, j'en connais pas. Pour moi, c'est plus proche d'un hominidé. Et sur la façon de réagir, et d'après les témoignages, d'après ce que j'ai trouvé, et d'après les contacts que j'ai eus avec... Parce qu'on a eu des contacts, comme j'ai dit, à ce niveau-là. J'ai même un endroit laissé la première année dans une barquette en plastique, là, comme on vend dans les supermarchés. J'avais laissé 5 tranches de pain et une banane, hein, et que j'avais mis ça dans un endroit précis. Eh bien, d'abord le premier jour, la première fois que mon offrande a été touchée, on avait enlevé 3 tranches de pain. Le reste était resté sur place. Deuxième jour, c'était les 2 tranches de pain qui restaient et la banane qui est partie. Puis j'ai augmenté la pression. J'ai mis des abricots. Les abricots sont partis. J'ai mis un melon. Le melon est parti. J'ai mis une pastèque. Là, c'est déjà plus gros. Ben, la pastèque, elle est partie aussi, finalement. Et, bon, on va me dire, c'est un ours. Oui, mais l'ours, il aurait mangé sur place. C'est un écureuil, oui, mais pas pour la pastèque et pas pour le melon. On veut bien qu'il aurait pris les abricots, ça je veux bien, mais pas pour la pastèque ni pour le melon, c'est trop gros pour un écureuil. Surtout un écureuil Douglas qui a la moitié de la taille de nos écureuils déjà, donc ça c'est pas possible. Et en plus, la façon dont ça a été fait, on enlève une tranche, on enlève deux tranches, et on ne perturbe pas le reste. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là.
Fort de l'expérience de ses nombreuses expéditions, Éric Joye envisage même d'organiser bientôt des Sasquatch Safari. Et celles et ceux qui n'ont pas froid aux yeux pourront l'accompagner dans les profondeurs des forêts américaines et canadiennes. Il compte d'ailleurs mettre bientôt sur pied une formation théorique et pratique qui permettra d'acquérir les bases si on souhaite se lancer dans la cryptozoologie et la recherche d'animaux inconnus tels que le Bigfoot sur le terrain. Il est presque temps de refermer ce dossier étonnant, amusant, mais aussi parfois irritant de l'énigmatique bipède velu au grand pied. Impossible d'affirmer qu'il existe vraiment. Quant à savoir ce que serait ce fameux Bigfoot, on ne peut que se laisser aller à des suppositions.
Le Bigfoot, c'est... D'abord, ce n'est pas un ours, parce qu'il faut procéder par élimination.
Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue.
C'est un être bipède qui, certainement, nous provient historiquement et géologiquement d'Asie centrale, qui a remonté complètement le nord de l'Asie et les populations auraient pu passer très certainement par le détroit de Bering et redescendre jusque dans la zone nord de l'Amérique du Nord et le Canada. Il y a quand même une similitude quand même très intéressante entre le Yeti himalayen dont on a parlé et le Bigfoot, c'est-à-dire que morphologiquement, finalement, si on plaçait un Bigfoot dans les massifs himalayens et si on place un Yeti himalayen en Amérique du Nord, finalement, ce serait pratiquement les mêmes êtres.
Quant à la taille du Bigfoot, elle serait pas forcément invraisemblable.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Si on suppose que ça soit un type de gigantopithèque, peut-être une espèce différente des différentes espèces de gigantopithèques qu'on connaît dans des temps géologiques récents, pléistocènes, eh bien un tel gigantopithèque aurait pu traverser le détroit de Bering en même temps que d'autres grands mammifères, notamment les ours, au moment où le détroit de Bering était à sec. Mais bon, ça fait beaucoup de si tout ça.
Ça fait beaucoup de si, effectivement. Et chacun est libre de se faire sa propre opinion. Pour conclure cet épisode consacré au Bigfoot, laissons la parole à une dame. Et quelle dame ? Jane Goodall, une des plus grandes spécialistes des primates au monde, qui a passé des dizaines d'années à étudier les chimpanzés. Ce que cette grande scientifique pense du Sasquatch pourrait vous étonner.
J'aimerais croire que le Bigfoot existe. J'ai rencontré des personnes qui jurent l'avoir observé, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des équivalents du Bigfoot sur chaque continent de la planète. Le Sasquatch, le Yeti, le Yowie en Australie, ou les hommes sauvages en Chine, par exemple. J'ai entendu des histoires racontées par différentes personnes et vous savez, vous devez les croire. Donc il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais je garde l'esprit ouvert.
Étrange impression, docteur.
De quoi est-ce que vous parlez ?
Eh bien, c'est fini.
Fini ? Mais ça ne fait que commencer. Jaco, cette vieille toquante-là n'a pas battu ainsi depuis des années. C'est comme aller au ciel sans quitter la terre. Et nous partageons ceci avec l'un de nos plus anciens amis.
Dans le prochain épisode, nous vous emmenons 20 000 lieues sous les mers pour tenter d'apercevoir dans les fonds marins un monstre avec un œil géant et des bras tentaculaires qui peut atteindre des tailles colossales, l'Architeuthis dux, plus communément appelé le calmar géant, qui dans les légendes faisait chavirer les bateaux.
Même aujourd'hui, il y a des doutes malgré les preuves, il y a un exemplaire
qui a été donné ou vendu par des Néo-Zélandais et qui fait 6 mètres de long, qui a été naturalisé et c'est un véritable calmar géant.
Tous les épisodes de la série consacrée aux créatures mystérieuses sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.
Thank you.